Nature, mais qu'est-ce que tu nous chantes? La série musicale de Matteo Caruta.
Tout l'été sur France Culture, la série musicale fait tomber les murs. Et jusqu'à vendredi, nous secouons les barrières qui nous séparent de la nature. Hier, nous sommes allés par monts et par vaux pour entrer dans les terres des mélodies pastorales. Aujourd'hui, changement de décor. Depuis deux siècles, les paysages de l'humanité se sont bouleversés. La ville est devenue peu à peu le cœur battant d'un monde nouveau. Les transports se sont diversifiés, les usines se sont développées comme autant de marques de la modernité. La croissance est devenue le moteur de nos civilisations et les sociétés industrielles ont fait de la nature le carburant du progrès. Les voies du charbon, du gaz et du pétrole font chanter le monde. Si les progrès scientifiques et techniques ont permis des avantages indéniables, l'impact de l'activité humaine sur la nature est sans précédent. Nous sommes déjà loin du point de non-retour. Et d'aucuns affirment que la planète Terre est entrée dans une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène.
France Culture, la série musicale.
On pourrait croire que jusqu'ici tout va bien, mais nous savons bien que l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Alors accrochez vos ceintures et ouvrez vos oreilles. Nature, mais qu'est-ce que tu nous chantes? Épisode 2, 12 mesures avant la chute. Dans la ville In The City des Chromatics, groupe phare du label de Portland Italians Do It Better, fondé par Johnny Jewell qui pose d'ailleurs ses instrumentations sur le morceau. La ville où la violence brille et où l'on peut voir les marcheurs de minuit, nous dit la voix lumineuse de Ruth Radlett. Depuis la fin du 19e siècle, le paysage urbain est devenu le protagoniste des pastorales de la modernité. Dans Dirty Old Town, la vieille ville sale, interlude de son spectacle Landscape with Chimneys, paysage avec cheminée, qui faisait le tour des villes minières du Pays de Galles, l'écrivain et chanteur Ewan McColl raconte comment sa vie a été marquée par les usines et leur fumée.
I found my love on the gasworks croft, dreamed a dream by the old canal. Kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Heard a siren from the docks. Saw a train set the night on fire. Smelt the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town.
J'ai rencontré mon amour près du mur de l'usine à gaz. J'ai entendu une sirène venant des docks. J'ai vu un train mettre le feu à la nuit. J'ai senti le printemps dans la fumée portée par le vent et les nuages dérivés à travers la lune. La sale vieille ville d'Ewan McCall est en fait Salford, un des centres du textile du nord de l'Angleterre, et les docks évoquent le canal qui passe par la ville avant d'atteindre Manchester. Mais ces mots décrivent le quotidien des vies ouvrières partout dans le monde. Repris par les Pogues et les Dubliners, le morceau devient vite un standard de la folk. Chacun reprend l'air et les paroles de McCall en lui ajoutant un paragraphe ou en changeant quelques mots pour se l'approprier. Les Pogues, par exemple, fidèles à leur penchant punk, menacent cette vieille ville de la trancher avec une hache d'acier comme un vieil arbre mort. Dirty Old Town, Old Town traverse l'Atlantique et le voici remodelé, version Soul de Détroit, la ville iconique de l'industrie automobile. Betty Lavette rencontre son amour aux portes de l'usine de General Motors, la surnommée Dodgeman Gate, et version américaine oblige, la police rôde et on entend des coups de feu.
I'm in my love down by Northern High. Dream the dream at a gravestone dance. I kiss my love by the Dodge Main.
Petit extrait de cette autre chanson autour des usines où Christian Stefanski décrit la condition ouvrière. Nous sommes cette fois-ci en 1975.
Ce n'est pas un quartier urbain, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de larbin, mais des cheminées aux fumées noires qui sèchent la gorge et qui font boire. Les gosses sont des hommes à 15 ans, car déjà ils gagnent de l'argent. Et quand la nuit fait des coins sombres, de partout surgissent des ombres. C'est toi Lulu, où c'est qu'on va? Bien sûr c'est pas à l'opéra. Autour des usines, quand dorment les machines, les amoureux tendrement enlacés échange des baisers. V'là 10 heures qui sonne. Bonsoir, ma mignonne. Demain matin, va falloir qu'on turbine à l'usine.
Les usines de Christian Stefanski. Mais la musique n'a pas seulement décrite ou dénoncé la vie à l'usine. Les sociétés industrielles influent sur la nature même du son. Comme Debussy, qui cherche à trouver le son et le rythme de la particule marine dans ses études, les futuristes s'attellent dès le début du siècle à rendre en musique la voix de notre nouveau monde fait de béton et d'acier. La nature est un vieux truc du passé. L'art de bruit de Luigi Russolo, que vous entendez, est programmatique et prend la forme d'un manifeste quand il le publie en 1913. Derrière cette œuvre, il y a la volonté d'un renouveau total du rapport de la musique sur le monde et la nature. Pour ce faire, Russolo et Ugo Piatti créent un instrument, l'Intona Rumori, le joueur de bruit, un instrument capable de copier les explosions d'une combustion ou le frottement d'une scie sur l'acier. L'acier, c'est aussi l'objet d'un mouvement symphonique futuriste du russe Alexandre Moussolov, composé en 1926. Zavod, musica, machine, usine, une musique mécanique, traduit la fonderie d'acier en français. Elle accompagne aussi Bruce Willis en 95 dans les péripéties guerrières du film Die Hard, Une journée en enfer. La mécanique orchestrale impressionnante d'Alexandre Moussolov en 1926 qui évoque les rouages d'une usine en ébullition. Le paysage industriel s'ancre profondément dans les représentations artistiques. En 1976, le collectif d'artistes et groupes de musique anglais au nom tendancieux de Throbbing Gristle, argot qui fait référence à leur capacité érectile, crée un label au nom plus transparent, Industrial Records. Così fan tutti, Chris Carter et Peter Christopherson mélangent les sons des avant-gardes aux instruments électroniques rudimentaires dont ils disposent, dans une expérimentation à la croisée de tout ce qui s'est produit jusqu'alors. Ils accompagnent leur dispositif de vidéos dans lesquelles ils diffusent des images pornographiques et de camps de concentration nazis, ajoutant, au son des basses, des infrasons pour mettre le public dans l'inconfort physique. Par ces provocations, les Throbbing Gristles dénoncent les errements des sociétés humaines en leur renvoyant la cruauté violente du monde industriel. La musique indus était née. Sur leur pochette de leur album 20 Jazz Funk Greats, publié en 1979, ils posent dans une nature rayonnante, sur une magnifique colline couverte d'herbes vertes et de fleurs, un moyen détourné pour souligner leurs propos. À y regarder de plus près, on se rend compte que cette colline est en fait une falaise et qu'ils sont au bord du précipice. Hot on the Heels of Love, chaud sur les talons de l'amour du groupe de musique industrielle londonien Throbbing Gristles. L'industrie est alors à son apogée culturel et forme une poésie technologique qui s'est affranchie de la nature. Dans les villes en déclin, à Détroit, dans l'Angleterre ouvrière et à Düsseldorf, naît une contre-culture industrielle. À l'utilisation des synthétiseurs ARP, Moog et Bushlack, déjà utilisés pour la musique disco, s'ajoutent les vocodeurs et les séquenceurs qui permettent l'exploration d'un machinisme musical. En Allemagne, un groupe est précurseur. C'est Kraftwerk, littéralement centrale électrique en allemand. Le ton est donné. Cantonné au laboratoire de recherche et aux mains de compositeurs savants et d'inventeurs farfelus, la musique électronique bascule dans la pop. En 1974, il publie un titre qui inaugure une nouvelle ère, c'est l'autoroute Autobahn. L'homme machine, les robots, l'hypnose automobile comme autant d'éléments d'un romantisme industriel. À travers leurs autres albums Radioactivity en 75, Trans Europe Express en 77, The Man Machine en 78, au Computer World en 81, Kraftwerk exprime les relations intimes qui lient désormais l'homme à la technologie. Car le progrès technique fascine. On s'éblouit devant la mise en ordre de la nature par la machine. Le compositeur Darius Milhaud écrit Machine agricole en 1919. Un cycle de 6 chansons qu'il qualifie de pastorales et qu'il titre « La moissonneuse »,« La faucheuse », »,« La lieuse », »,« La fouilleuse-draineuse », »,« La déchaumeuse-semeuse-enfouisseuse » et « La faneuse », tout un programme. De son côté, la machine à vapeur découverte prodigieuse de James Watt en 1784, souvent perçue comme à l'origine de la révolution industrielle, devient le symbole d'une technique au service du progrès. Les bruits du train deviennent une matière d'étude pour la musique savante. Arthur Honegger les imite pour la première fois dans Pacific 231 en 1923, en hommage à la locomotive du même nom. Les bruits de machines à vapeur sont mimés par les glissandis des violons. Et on perçoit également, vers la fin de l'extrait que je vous propose, un son répétitif, le bruit des roues sur les rails, qui préfigure complètement les répétitions de la musique électronique et des sons qui ressemblent à s'y méprendre au synthétiseur inventé 30 ans plus tard. Pacifique 231, la machine à vapeur d'Arthur Honegger. Henri Schaffer, ingénieur à la radiodiffusion-télévision française, introduit la technologie dans le processus de composition en proposant d'extraire une substance musicale de la matière sonore elle-même. Dans l'orchestration traditionnelle, on crée des sons sur les instruments à partir d'une partition de musique. Schaffer propose d'inverser la logique et de créer de la musique à partir de sons préexistants. Le 5 octobre 1948, Paris Inter diffuse « Études sur le chemin de fer », premier morceau historique de la musique dite « concrète ». Vous avez sûrement reconnu la réponse de l'immense Ennio Morricone à Henri Schaffer dans le générique du Bon, de la Brute et du Truand pour le mythique western spaghetti de Sergio Leone. Les sifflements du train au milieu des aboiements du coyote qui sent bon l'esprit de conquête du Far West, l'Ouest lointain et sauvage.
France Culture, la série musicale d'été, Matteo Caranta.
Mais revenons à notre chouchou, avec un morceau qui chante le train plus que tous les autres, c'est Mystery Train. Enregistrée chez Sun Records en 1955 par Elvis Presley, elle fait plusieurs fois le tour du monde et pas qu'en locomotive. Les 16 wagons où se cache l'amour de l'auteur traversent, pour ne citer que, le répertoire des Doors, de Neil Young, d'Otis Redding et du quatrième film de James Jarmusch, Mystery Train, où deux rockers japonais partent en pèlerinage à Memphis, la ville du King. Pour la bande originale du film, Jarmusch reprend la version de Little Junior Parker, le Mr. Blues de la ville, qui a composé la chanson en 1953. Et on peut aisément y entendre la locomotive jouée par le saxophone.
Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train carried my baby home. Train is gonna do it again.
Mystery Train par Zora Young dans son album French Connection en 2007, qui remplace les chouchous de la locomotive par le riff pincé d'une guitare électrique. The train I ride is 16 coaches long. Le train que je monte est long de 16 wagons. Sans commentaire. Se produit pas seulement autour de la fascination des machines ou des sonorités industrielles, elle se joue aussi à l'intérieur des usines. Alors que la nature est cantonnée à sa condition de ressource en puissance, la musique devient elle aussi un outil de la croissance. Orphée n'en finirait pas de se retourner dans ses enfers. Si l'utilisation de la tradition musicale allemande par le Troisième Reich comme outil d'exaltation du nationalisme arien est connue, on sait moins que la 9e symphonie de Beethoven était jouée dans les usines des blindés allemands, les Panzers, pour façonner, je cite, « les vaillants travailleurs, figures modernes de la chevalerie teutonique ». Mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, que l'utilisation psychologique de la musique à des fins commerciales ou productives va trouver son essor. Et ce, sous un nom de code à la mélodie aussi limpide qu'épouvantablement innocente, la musaque. Miniskirt par l'orchestre Musak lui-même. Et si ce morceau vous a réveillé, c'est tout à fait normal, il a été conçu pour ça. Mais revenons un peu en arrière. Le mot Muzak naît de la contraction des mots musique et Kodak, la fameuse marque de films photographiques. Créée en 1934 par un général à la retraite, l'entreprise détient un brevet pour la diffusion de musique d'ambiance à travers les fils électriques. Une petite révolution, alors que le besoin de meubler de son l'espace public se fait sentir dans les galeries commerciales, les supermarchés, les stations de métro, les parkings, les administrations et évidemment les ascenseurs. Parce qu'il faut savoir que jusqu'aux années 30, l'idée de monter dans une cage pour y être hissé, parfois sur des centaines de mètres, fait frissonner les employés des bureaux de ville verticales comme Manhattan. La musique d'ascenseur, proposée par la Muzak, est là pour nous rassurer. Plus d'appréhensions inutiles, on nage dans une musique ni trop, ni pas assez rythmée, suffisamment présente pour éteindre les regards maladroits des occupants éphémères de la cabine d'ascenseur. Certains parleront d'environnement amniotique du son. On baigne littéralement là-dedans. Pour cela, on réécrit et réenregistre tous les grands classiques de la musique et des standards de jazz ronronnants, en évitant notamment les effets instrumentaux complexes et les changements rythmiques trop brusques. En 1936, la musique d'ambiance est partout aux États-Unis. En 1941, le gouvernement américain demande à Muzak de diffuser de la musique dans les arsenaux militaires pour contribuer à l'effort de guerre. On crée alors la méthode de la stimulus progression, qui fonctionne sur un principe de découpage de la journée sonore en blocs de 15 minutes, codifiés en fonction du tempo et de l'orchestration de la musique. Chaque morceau est placé sur une valeur allant de 2, le plus lent, à 6, le plus rythmé. Les ingénieurs calculent un profit de productivité de 17% précisément. Le même système est établi pour soutenir la consommation dans les centres commerciaux. Les compagnies de musique en boîte régularisent l'environnement acoustique du monde. La musique, comme la nature, est ramenée au rang fonctionnel d'un caddie de supermarché. Muzak, niveau 2, 3, 4, 5, 6, à vos marques. Prêt, feu, consommez.
She's real fine, my 409. She's real fine, my 409, my 409. Well, I save my pennies and I save my dimes. Giddy up, 409. For I knew there would be a time. Giddy up, 409. When I would buy a brand new 409. 409. Giddy up, giddy up, giddy up, 409. Nothing can touch my 409, 409. Ooh, giddy up, giddy up. Ooh, giddy up, giddy up. Ooh, giddy up, giddy up. Ooh, giddy up, giddy up.
When I take her to the drag, she really shines. Always turns in the fastest time.
Giddy up, 409.
My four-speed dual quad positive traction 409.
409, 409.
Giddy up, giddy up, giddy up, 409.
Giddy up, giddy up, 409.
Giddy up, 409. Giddy up, 409.
Giddy up, giddy up, 409. Nothing can catch her, nothing can touch my 409.
La 409 des Beach Boys, la 409. Le chanteur va mettre un peu d'argent de côté pour s'acheter ce moteur V8 vombrissant dont il rêve, sous-entendu la Chevrolet Bel Air coupé sport qui va avec, évidemment. Une publicité qui serait suspecte si les Beach Boys n'en avaient pas fait un style de musique à part entière et plutôt réussi. Les Ford, les Dodge, les Honda, les Harley peuplent leurs chansons. Les jeunes Californiens symbolisent l'Amérique insouciante et leur répertoire cultive trois choses. Les surfs, les filles et les voitures. Trois adorations donc pour deux styles de musique, la surf music et la hot rod music pour les voitures. Les filles s'intègrent dans les deux catégories précédentes. Ce triumvirat de l'indolence est exposé en modèle de consommation où le divertissement est roi et la voiture reine.
I'm gonna wake you up early, 'cause I'm gonna take a ride with you. We're going down to the Honda shop, I'll tell you what we're gonna do. Put on a ragged sweatshirt, I'll take you anywhere you want me to. First gear, it's alright. Second gear, a lean ride. Place I know you like. First gear, it's alright. Second gear, a lean ride. Third gear, hang on tight.
Faster,
it's alright. It climbs the hills like a matchless, 'cause my Honda's built really light. When I go into the turns, hell, you'd be and hang on tight. I better turn on the lights so we can ride my Honda tonight. First gear, it's all right. Second gear, a lean ride. Third gear, hang on tight.
Faster, faster, faster,
it's all right. First gear, it's all right. Second gear, a lean ride.
La petite Honda, décrite avec amour par les Beach Boys et leur légendaire Reverb, explose au début des années 60, avant que l'arrivée de la contre-culture rende impossible à tout rocker qui se respecte de chanter les louanges de la consommation. Il y a la ville, la campagne où l'on produit pour la ville, et la mer et la montagne où l'on prend du bon temps. La nature proche s'est civilisée, elle sert de support à un sport aquatique. Mais la nature non maîtrisée, elle, sauvage, inaccessible aux finalités humaines, qu'en est-il? Eh bien, elle est fantasmée. On l'isole dans un imaginaire lointain. En 52, Les Baxter publie Le Rituel des Sauvages, un disque au parfum musac qui incorpore des bongos, des congas, des oiseaux rares, des vibraphones et fait un imaginaire exotique. Le pianiste Martin Denis donne un nom à ce nouveau genre quelques années plus tard avec son album Exotica, un nouveau style est né. On mélange des sonorités du Sud en majuscules, pacifique, amazonien, africain, pour recréer l'impression d'une nature et d'une humanité sauvage. Mais l'exotica a sa reine, et celle-ci est péruvienne. Ima Sumac, proclamée descendante en ligne directe du dernier empereur Inca Atahualpa, est en plus coloratour. Sa voix file à une vitesse surprenante sur 5 octaves, 2 de plus que Maria Callas. Hollywood est ravi. Sur ses pochettes d'albums, Ima Sumac pose entourée de guerriers dignes des meilleurs péplums de l'époque. Elle porte au sommet le son de la jungle.
Bombalay, la bento negro. was a butter woman. Ay, lamento que llega el corazón.
Culture, la série musicale, et nous parcourons les paysages musicaux de la modernité. La ville en est devenue le paysage, et Renaud, ça lui va très bien. Lui, il est amoureux de Paname, c'est un gars du bitume.
Écoutez-moi, vous les ringards écologistes du samedi soir. Cette chanson-là vaut pas un clou, mais je la chante rien que pour vous. Vous qui voulez du beau gazon, des belles pelouses, des petits moutons, des feuilles de vigne et des petites fleurs, faudrait remettre vos montres à l'heure. Moi, je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage, mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi, vous les ringards, écologistes des boulevards. Vos beaux discours, y en a plein le dos, y a du soleil dans les ruisseaux. La tour Montparnasse, elle est belle, et moi j'adore la tour Eiffel. Y a plein d'amour dans les ruelles, et de poésie dans les gratte-ciels. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage, mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi, vous les ringards écologistes des grands soirs. La pollution n'est pas dans l'air, elle est sur vos visages blêmes. Moi j'aime encore les pissotières, j'aime encore l'odeur des poubelles. Je me parfume pas l'oxygène, le gaz carbonique c'est mon hygiène. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais c'est la plage, mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage.
Si la ville est désormais le paysage, le bitume de Renaud, l'espace de désir, lui, est envahi par les nouvelles petites machines qui pullulent comme autant de nouveaux besoins. Ce n'est pas vraiment du goût de Boris Vian, surtout en matière d'amour.
Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Jusqu'à la prochaine fois, le repas limace et le tabouret à glace, objet surréaliste de l'énumération comique et critique du poète, chanteur et écrivain Boris Vian, dans sa Complainte du progrès, écrite en 1956. Le parallèle entre la relation matérielle et la relation sentimentale est évident. Tout se prend, se jette et se reprend. On en fait de même avec et dans la nature. Ces deux chansons introduisent notre épisode de demain, où nous verrons comment les années 60 et 70 qui ont vu éclore la musique industrielle ont aussi été le berceau d'une contre-culture écologiste. Mais pour finir cette heure de musique au cœur du progrès technique, je vous propose de rendre hommage à Lev Sergeyevitch Termen, le génial inventeur de l'un des plus beaux instruments du XXe siècle qui constitue l'acte de naissance de la musique électronique, le thérémine. L'ingénieur russe, à la biographie de roman d'espionnage, conçoit une sorte de guéridon ou pupitre muni de deux antennes, l'une verticale, l'autre horizontale. L'instrument se joue debout et ce sont les ondes qui produisent le son. Les mains semblent danser dans le vide. La main gauche, près de l'antenne horizontale, module l'intensité du son. La droite, qui virevolte autour de la verticale, effectue la mélodie. Le résultat sonore est surprenant et magnifique. Écoutons la virtuose du thérémine, Clara Rockmore, interprétant la berceuse numéro 1 de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Ooh.
C'est ici que s'achève notre heure d'émission Nature, mais qu'est-ce que tu nous chantes ? À la réalisation, la femme machine, Nathalie Salle. Aujourd'hui à la techno-technique, Cindy Legru-Melec. Merci à Antoine Villose, la machine à vapeur de la discothèque de Radio France, ainsi qu'aux industrieuses Annelise Signoret à la bibliothèque et Zoé Fernandez à la documentation musicale. Merci également à Marine Decamp et Aude Vassan pour leurs archivinas. Nature, mais qu'est-ce que tu nous chantes ? Une émission proposée par Matteo Caranta, podcastable en série illimitée sur le site de franceculture.fr et sur l'appli de Radio France. À demain.